Et alors maintenant sur la série.
Un doodle ?
Non, non.
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est.
On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et j'ai.
J'y passe tous les jours.
Alors avant de commencer cette discussion, souhaitons bon courage à Lino, hein, qui ne peut pas être avec nous en raison de ses partiels. Alors, le premier sujet sur lequel je voudrais revenir, ce sont les départementales, évidemment. On reviendra sur le Lyon-Turin après. Alors d'abord, sur les départementales, est-ce que vous avez compris ma petite allusion qui était que le ministère de l'Intérieur brouillerait le scrutin?
Non.
Non.
Moi, non.
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 Alors, parce que j'ai vu... Maëlys, non ?
Non, j'attends, je suis dans l'expectative, là.
Parce que j'ai vu passer sur le site du Monde, il y a 2 semaines peut-être, un article dans lequel notamment les petits partis, notamment le Front de Gauche ou les écologistes, se plaignaient de l'attribution des étiquettes par le ministère de l'Intérieur, qui aurait peut-être tendance à mettre sous une étiquette divers gauche ce qui n'est pas divers gauche, ou à brouiller un petit peu les étiquettes. Bon, c'était pour ouvrir ça sur une note un petit peu comique. Alors, maintenant, redevenons un peu sérieux. Dans votre département, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes optimiste ou pas, Céline?
Moi, je suis persuadée que la Haute-Loire va rester à droite. Donc ça, c'est un classique. On est très marqué par cette tendance politique. Après, ça ne m'étonnerait pas non plus que le FN fasse une percée.
Vous avez parlé de ces 8 candidats FN de la même famille la dernière
six.
Fois.
6, pardon. N'exagérons rien.
N'exagérons rien. Alors, Jérémy, toi, tu viens de l'Oise,
oui,
il me semble.
Et donc, c'est l'un des départements où le FN est vraiment très en pointe et l'un des départements dans lequel il a statistiquement des chances de remporter les élections pour de bon. S'il ne les remportait pas, ce serait un UMP qui était déjà président du département il y a une quinzaine d'années. Donc, vraiment, l'innovation au pouvoir.
Oui. Et puis l'Oise, il me semble que dans le cadre d'une fusion de la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais, rendrait probable
oui,
ou possible au régional.
Oui, comme ça, il y aurait une grosse région FN, ils auraient tout un territoire rien qu'à eux. Ils pourraient prendre leur indépendance ou quelque chose comme ça.
Jérémy, vous en parlez d'innovation politique, mais le problème est sans doute aussi l'offre politique. Moi, je sais qu'en Haute-Loire, la liste concurrente à la liste représentée par la droite n'est pas forcément très convaincante, avec des candidats de gauche, enfin des candidats PS qui ont monté une liste concurrente parce qu'il fallait une liste concurrente pour qu'il y ait le jeu démocratique. Mais l'impression que ça donne, c'est surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de convictions, pas beaucoup d'espoir de gagner non plus. Parce
c'est pas très sérieux non plus.
Exactement. Du coup, voilà, le problème est aussi sans doute du côté de cette offre politique qu'on n'a pas.
Et alors Maëlys, est-ce qu'on est un peu plus sérieux à Caen ou...
Alors, dans le Calvados, la Normandie en général, ça a toujours été une région un peu tangente, plutôt à droite, mais qui ces derniers temps...
Elle a tendance à suivre un peu
c'est
les
ça,
tendances
voilà.
nationales.
C'est ça, et alors moi je ne suis pas trop au courant du Calvados, de la situation en ce moment, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allée. Mais je rentre le week-end prochain pour faire mon devoir de citoyenne. Moi je me rappelle juste qu'au dernier département, c'est pas les départementales, c'était l'année dernière, c'était les européennes et les municipales. Le Front National a fait le 25 mai notamment, avait vraiment fait un score record dans certains villages à côté de chez moi. Marine Le Pen est arrivée en tête, chose qui n'était pas envisageable il y a 5 ou 10 ans. Et donc je suis pas plus optimiste pour le Calvados que pour le reste de la France, malheureusement.
Alors sur un autre point sur ces départementales, donc Céline, tu nous as rappelé l'implication de Manuel Valls dans cette campagne, une implication extrêmement importante. Est-ce qu'il a raison de s'impliquer autant dans cette campagne? Est-ce qu'il a raison de se mettre autant en avant, à votre avis?
Moi, je pense qu'il fait aussi un dialogue par médias interposés avec Nicolas Sarkozy. On a un peu un combat de coq, on va dire. En prévision des prochaines grandes élections nationales. Et c'est assez sensible dans la manière dont ils se répondent. Alors, j'avais entendu ça hier, mais Nicolas Sarkozy lui avait adressé une pique auquel Manuel Valls a immédiatement répondu. Bon, mais voilà, on a aussi cet aspect-là qui est sans doute présent. Après, bien sûr, il fait son rôle de Premier ministre.
Oui, c'est son rôle naturel en tant que Premier ministre et chef de la majorité de mener la campagne. Après, il fait ça très très mal. Essayer, oui, comme ça, de chercher la polémique à tout prix avec Sarkozy.
Et le FN.
Et le FN, oui. Et se poser en, en héros de la lutte contre le FN.
Oui, parce qu'il revendique qu'il stigmatise Marine Le Pen, il l'a dit.
Avec toujours ces arguments moraux de la part du PS qui sont absolument affligeants. Non, c'est très mauvais.
Et puis on a quand même le sentiment que le PS est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, cet article de Libération que j'évoquais un peu plus tôt, dans lequel la journaliste, j'ai oublié qui c'était, nous explique qu'on se croirait vraiment en meeting présidentiel avec du monde, des drapeaux, Manuel Valls qui arrive en disant « Ah bah tu vois, on aurait dû louer une salle plus grande ». Enfin, on a quand même le sentiment d'une grande déconnexion de la réalité du parti au pouvoir.
Mais la situation est quand même assez catastrophique pour le PS depuis 3 ans. Est-ce qu'ils font pas semblant aussi? Enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas dans un dernier élan de comme quoi faut tenir, faut quand même mener ces élections, etc. Mais est-ce qu'ils croient vraiment au discours qu'ils portent ou pas? Enfin, moi, c'est la question que je me pose quand devant une salle comble de militants PS, alors que dans tout le pays, on critique le Parti Socialiste depuis 3 ans. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Leur cote de popularité est au plus bas dans les sondages. Est-ce qu'ils y croient vraiment ou pas, en fait? Moi, c'est plus la question que je me pose quand je vois ça.
Ouais, c'est une question légitime. Et puisqu'on parle de cote de popularité, on sait que celle de François Hollande, qui était remontée après le 11 janvier, est de nouveau redescendue dans les limbes des instituts de sondage. Est-ce que cela vous paraît tenable pour le président de la République d'annoncer qu'il ne changera absolument rien, qu'il ne changera pas de Premier ministre, qu'il ne changera pas de politique, et qu'on l'aime ou qu'on le quitte, concrètement?
Je veux répondre. C'est l'interview à Challenge la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est comme d'habitude de sa part une tentative de créer une rhétorique de la fermeté. Nous avons un cap, nous n'en changerons pas. Ça, c'était, le cap, c'était la grande métaphore de Jean-Marc Ayrault, qui nous manque beaucoup. c'est vraiment, on est dans l'abnégation la plus totale, parce que il n'est pas temps que la politique menée ne change pas, ne marche pas, que sa popularité, c'est pas un indicateur très stable, mais quand même révélateur que rien ne va. Et je sais pas à quoi ça sert, ces grandes déclarations pompeuses.
À la limite, si on était stressé tout à l'heure, nous voilà rassurés, François Hollande reste cohérent et reste jusqu'au bout. On a au moins ça pour nous.
Alors, tu parlais de Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, notre défunt Premier ministre, prédécesseur de Manuel Valls. Alors, je comparais en rigolant, bien sûr, le Lyon-Turin à Notre-Dame-des-Landes. Alors déjà, en aviez-vous entendu parler de ce projet de Lyon-Turin?
Très très vaguement, vraiment de loin, et justement c'est fascinant de voir à quel point ça ne passe presque pas la frontière. Il y a de temps en temps des manifestations en Savoie, mais ça va jamais bien plus loin que ça. Même Lyon, qui n'est pas si loin, qui est concerné au premier chef, ça nous atteint pas, donc presque pas. Ça n'a aucune visibilité en France.
On a le sentiment qu'il y a eu quelques années une inflation de ces gros projets.
En fait, peut-être qu'on n'a pas tant une inflation des gros projets qu'une inflation des mouvements de contestation contre ces projets qui ont beaucoup plus justement de visibilité, à qui on donne beaucoup plus la parole. Et puis, c'est tous les soirs des zadistes aussi. Un mouvement qui va à la contestation, qui veut donner aussi plus de parole aux populations locales, à ceux qui vont vivre sur place avec ces projets. C'est bien, je trouve.
Oui. Après, moi, je pense que c'est toujours très, très difficile à trancher, parce qu'en même temps, ces projets-là, qu'on le veuille ou non, ils ont aussi été décidés par des représentants qui ont été élus. Et donc, je pense que c'est bien. Enfin, à chaque fois, on peut toujours arguer les lobbies d'industriels, etc., qui font pression sur les politiques pour mettre en place ces projets-là. Mais c'est le problème, c'est qu'on a d'un côté des gens qui se veulent les défenseurs de la nature, etc., mais qui n'ont aucune légitimité électorale. Et en face, on a des représentants qui ont été élus par le peuple et qui sont censés représenter la volonté des gens.
Alors après, il faut sans doute s'intéresser aux situations beaucoup plus spécifiques et les prendre les unes après les autres.
Oui, bien sûr.
Regardez ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu des cas où il n'y a absolument pas eu de consultation populaire. Alors je pense que c'est aussi la moindre des choses avant de faire un projet, ou alors au moment de vraiment mettre en place ce projet, d'y réfléchir, etc., d'associer aussi simplement les habitants qui vivent à côté, de les associer, de les faire venir et de parler ensemble. Or, pour quand même, alors je vais dire une grande partie, mais en fait, ça ne représente rien. Donc, or, pour certains de ces projets, ça n'a pas été fait. Ce qui explique aussi aujourd'hui la contestation d'une certaine partie de ces personnes.
on a un peu le sentiment que ces stress tests sont là parce qu'il faut les faire. Ils ont une utilité et ils permettent beaucoup de choses. Lino nous l'a expliqué. Mais est-ce qu'il faut... Ça remet sur la table un débat. Faut-il aller plus loin dans l'intégration économique des États européens pour plus de régulation? C'est des débats qui sont très actuels, notamment depuis l'ouvrage de Thomas Piketty qui a suscité une intense réflexion. Qu'en pensez-vous? Un avis? Une réaction?
Le problème, c'est que... Parti comme les choses sont, si on intègre encore plus les États européens, ce ne sera pas pour plus de régulation, mais au contraire pour encore plus de laisser-faire. Donc, personnellement, je préfère qu'on en reste là pour le moment plutôt que de faire n'importe quoi.
Oui. Et puis, c'est aussi que l'intégration économique, elle se fait à deux vitesses. On a d'un côté l'économie réelle, de l'autre côté l'économie monétaire. Or, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a une politique monétaire qui est commune pour tout le monde et des réalités économiques qui sont différentes dans chaque État.
D'un État à l'autre.
Et donc, on est obligé d'avoir une politique monétaire unique pour tout le monde qui ne convient pas forcément aux nuances et aux différences entre ces pays-là. Donc, il y a forcément des pays qui vont être laissés sur le carreau, dont la politique monétaire va ralentir en fait l'économie réelle et ça c'est problématique. On peut pas rester comme ça dans un entre-deux qui favorise certains au détriment de d'autres en fait.
Oui. Merci à tous pour cette discussion toujours très intéressante et pour ces réactions toujours nourries. Le journal touche à sa fin, chers auditeurs. Alors merci à ENS Media qui a assuré la technique vaillamment comme toujours. Nous espérons que ce deuxième numéro vous a intéressé et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 4 avril. Une semaine après le deuxième tour des élections et le lendemain du troisième tour, l'élection des présidents des conseils généraux, on fera un bilan de ces élections. Et puis, il est possible que Lino vous parle de cette reprise économique que Céline évoquait et à laquelle se raccroche François Hollande. Sur le reste, suspense, à dans 2 semaines. Right.